Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau livre. Il s'agit de Les Quatre, un roman d'Agatha Christie traduit de l'anglais par Xavier Roux, Librairie des Champs-Élysées, 1933. Il est peu utile de présenter l'auteur, tant son nom est connu. Juste et en quelques mots, pour celui ou celle qui n'aura pas encore testé la lecture d'un livre écrit par Agatha Christie, voici en bref un court résumé de ce qu'on pourrait en dire. Agatha Christie, dont les 80 livres se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde, est la reine du roman policier à énigmes. Ses héros les plus célèbres, Hercule Poirot, Miss Marple, s'attaquent aux crimes les plus mystérieux avec flegme, décontraction. Et cette touche d'humour anglais qui rend l'atmosphère des romans d'Agatha Christie inimitable. Voici maintenant ce qu'en dit l'auteur pour présenter son livre. Une enquête sur les quatre. Quels quatre? S'agit-il d'un quatuor musical? Des quatre grands? Du pacte à quatre? Oh non! Tout cela ne saurait constituer matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot. Et les quatre en question sont des adversaires à sa mesure, un quatuor criminel. Une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde. Bigre, voilà des ennemis comme le célèbre détective n'aurait osé en rêver. Et une rude bataille en perspective. Ce roman est paru sous le titre original et en anglais « The Big Four ». Il a été édité en 1927 et traduit ensuite en 1933 pour la Librairie des Champs-Élysées. Chapitre 1er. Le visiteur inattendu. C'est beau la traversée de la Manche pour ceux qui se prélassent dans leur chaise longue en attendant tranquillement le moment de débarquer et de rassembler sans précipitation leurs bagages. Mais moi, dès que je mets le pied sur le bateau, le temps me paraît trop court pour entreprendre quoi que ce soit. Je transporte mes valises d'un endroit à un autre, j'emballe, je déballe, je remballe, et si je descends prendre un repas, je l'avale d'un trait de peur qu'on ne touche terre pendant que je me restaure. En cette claire matinée de juillet, arpentant fiévreusement le pont, le regard rivé aux blanches falaises de Douvres, je m'émerveillais de voir les passagers demeurer flegmatiquement dans leur fauteuil, sans même lever les yeux vers le pays natal. Leur cas, peut-être, était différent du mien. Ils revenaient d'un week-end à Paris et non pas, comme moi, d'un long séjour en Argentine. Un an et demi dans un rancho argentin. J'avais réussi dans les affaires et nous avions goûté là-bas, ma femme et moi, la vie libre et facile de l'Amérique du Sud. L'Angleterre me serait-elle aussi clémente? Mon cœur se serrait en la voyant se rapprocher peu à peu. Débarqué 2 jours auparavant en France où j'avais réglé quelques affaires, j'étais maintenant en route pour Londres. Je me proposais d'y rester quelques mois, le temps de revoir de vieux amis et tout particulièrement l'un d'entre eux, un petit bonhomme à la tête en peine de sucre et aux yeux verts, Hercule Poirot. Je voulais le surprendre. Ma dernière lettre ne soufflait mot de mon retour, qui lui avait qui, lui, avait été décidé brusquement. Les affaires, toujours les affaires. Je me réjouissais à l'avance du plaisir et de la stupéfaction que provoquerait mon arrivée. Sans doute, je trouverais Poirot chez lui. Le temps était passé où ses occupations l'obligeaient à courir d'un bout à l'autre de l'Angleterre. Sa réputation était devenue mondiale et il n'admettait plus qu'une affaire absorbât tout son temps. Désormais, il n'intervenait plus que comme détective conseil, au même titre qu'un docteur célèbre de Harley Street. L'image populaire du limier qui revêt les plus extraordinaires déguisements pour dépister les criminels et qui s'arrête à chaque trace de pas l'avait toujours amusé. « Non, mon cher Hastings, me dirait-il, laissons ce genre à Giraud et à ses amis. Hercule Poirot a d'autres méthodes. Le cerveau avant tout. » L'intelligence, l'esprit, les petites cellules grises. Confortablement installé dans mon fauteuil, je vois ce qui échappe aux autres. Pas besoin de bondir et de me démener comme notre ami l'inspecteur Japp. Certes, il y avait peu de chances pour que Hercule Poirot fût loin. Arrivé à Londres, je déposai mes bagages à l'hôtel et me fit conduire directement à la sympathique demeure. Que de souvenirs ! Je pris à peine le temps de dire bonjour à la vieille propriétaire, je me précipitai dans l'escalier, montant deux marches à la fois, et je frappai à la porte de Poirot. « Entrez !» me cria à l'intérieur une voix familière. J'avançai, Poirot était devant moi. Il tenait une petite valise à la main qui lui échappa en me voyant. « Mon ami Hastings » s'écria-t-il. « Mon cher ami Hastings !» En s'élançant vers moi, il m'étreignit fraternellement. Là-dessus, conversation incohérente. Bribes de phrases, questions diverses, réponses incomplètes, bons souvenirs de ma femme, récits de mon voyage, etc., etc. Je suppose que mon ancien appartement est occupé, demandai-je enfin lorsque nous fûmes calmés. J'aimerais pouvoir de nouveau habiter avec vous. La physionomie de Poirot changea avec une saisissante soudaineté. Mon Dieu, quelle malchance! Regardez donc autour de vous, mon ami. Pour la première fois, je vis ce qui m'entourait. Contre le mur, une immense malle bombée, un coffre préhistorique, une série de valises. Vous partez ?
Oui.
Où cela ? En Amérique du Sud.
Comment ?
Une drôle de farce, hein ? Je suis sur le point d'aller à Rio. Chaque jour, je me disais, il ne faut pas que j'en parle à Hastings dans mes lettres. Quelle bonne surprise lorsqu'il me verra arriver. Mais quand partez-vous ? Poirot regarda sa montre. Dans une heure ? Et moi, qui vous ai toujours entendu dire que rien ne vous persuaderait d'entreprendre une longue traversée ? Poirot sursauta. « Oh, ne m'en parlez pas. Mon docteur m'assure qu'on n'en meurt pas. Pour une fois, je crois que je tenterai le coup. » Il m'offrit un siège et poursuivit. « Tenez, je vais vous expliquer comment tout cela s'est décidé. Connaissez-vous l'homme le plus riche du monde, encore plus riche que Rockefeller ? C'est Ab Ryland. Le roi du savon ? Précisément, un de ses secrétaires m'a pressenti. Il a du fil à retordre en ce moment avec une grosse société de Rio. Il m'a proposé de me rendre sur place pour enquêter. J'ai refusé en déclarant que si les faits m'étaient clairement exposés, je pourrais donner mon avis. Mais non, monsieur a insisté. Les données, paraît-il, ne peuvent m'être communiquées que sur les lieux. Normalement, l'affaire aurait dû s'arrêter là. Disposer du temps d'Hercule Poirot? Quelle impertinence! Mais mon cher Hastings, il a fini par m'offrir une somme tellement prodigieuse que je me suis laissé tenter. C'est la fortune. Et puis, il y avait un second attrait. Vous voir, mon cher ami, vous voir. Cette marque d'estime me toucha considérablement. Aussi ai-je accepté, continua Poirot. Et dans une heure, je dois prendre le train transatlantique. Voilà une des petites ironies de la vie. Je vous avoue, Hastings, que si la somme offerte n'avait pas été aussi alléchante, j'aurais hésité, car tout récemment, j'ai entrepris de mon propre chef une petite enquête. Une enquête sur les quatre. Quels quatre? Vous ne parlez pas, j'espère, d'un quatuor artistique, ni des quatre grandes puissances mondiales, ni du pacte à quatre. Non, dit lentement Hercule Poirot, je parle d'un quatuor criminel. Et bien que ce ne soit pas un quatuor à cordes, il a, croyez-le, plus d'une corde à son arc. Il s'agit d'une bande de criminels internationaux ou quelque chose d'analogue, et je crois, je crois. Que croyez-vous, cher maître? Prononcez-vous. Je crois qu'il s'agit d'une affaire de grande envergure. C'est une idée à moi, rien de plus. Mais il faut que je termine mes préparatifs. Le temps passe si vite. Ne partez pas, insistai-je. Faites annuler votre billet et vous partirez plus tard avec moi. Poirot m'adressa un regard chargé de reproches. Ne m'avez-vous donc pas compris? J'ai donné ma parole, la parole d'Hercule Poirot. Rien, sinon une question de vie ou de mort, ne pourrait me retenir maintenant. Il est peu probable qu'elle surgisse, répondis-je en souriant, à moins qu'à la 11e heure se présente l'hôte inattendu. Un instant, nous restâmes silencieux. Et tout à coup, dans le calme mélancolique, un bruit étrange dans la pièce voisine nous fit sursauter. Et qu'est-ce? M'écriai-je. Ma parole, répliqua Poirot, on dirait que c'est votre hôte inattendu. Mais comment se serait-il introduit dans votre chambre, puisqu'on ne peut y accéder que par cette porte-ci? Vous avez une mémoire excellente, Hastings, pour vous souvenir ainsi de la disposition de l'appartement. Maintenant, passons aux déductions. Évidemment, il y a la fenêtre. Mais alors, ce serait un cambrioleur. Il lui a fallu faire une rude ascension. Je m'étais levée et j'avançais vers la porte, quand, de l'intérieur, j'entendis toucher la poignée. Je m'arrêtai. Le ventail s'ouvrit lentement et, encadré par le chambranle, un homme apparut. Il était couvert de poussière et de boue, des pieds à la tête. Ses traits étaient convulsés. Un instant, il nous regarda fixement, puis chancela et s'écroula. Poirot se précipita vers lui en me jetant « Vite, de l'alcool !»
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Je versai rapidement de l'eau de vie dans un verre, Poirot parvint à lui en faire avaler un peu et nous le transportâmes sur le canapé. Bientôt, l'homme rouvrit les yeux et promena autour de lui un regard inconscient. « Que voulez-vous ? » demanda Poirot. L'individu remua les lèvres et dit d'une voix étrange « Monsieur Poirot, 14 Faraway Street. »«
C'est moi ?»
L'inconnu ne parut pas comprendre et répéta exactement sur le même ton « Monsieur Poirot, 14 Faraway Street. » Poirot lui posa plusieurs questions. Tantôt l'homme ne répondait rien, tantôt il répétait la même phrase. Poirot me fit signe de téléphoner. « Demandez au docteur Ridgeway de venir !» Fort heureusement, le docteur était chez lui. Et comme sa demeure n'était pas loin, il arriva rapidement. « Qu'y a-t-il ?» Poirot fournit une brève explication et le médecin examina notre étrange visiteur qui semblait totalement ignorer sa présence et la nôtre. « Ah ah !» dit le docteur Ridgeway lorsqu'il eut terminé son auscultation. « C'est un cas curieux !»« Fièvre cérébrale ?» demandai-je. Mais le médecin riposta avec mépris. « Fièvre cérébrale ? Mais ça n'existe pas ! La fièvre cérébrale, c'est une invention de romancier. Non, cet homme a dû subir un choc. Il est venu ici, sous l'empire d'une idée fixe, pour trouver M. Hercule Poirot au 14 Faraway Street. Et il a répété ces mots machinalement, sans savoir le moins du monde ce qu'ils signifient. « Aphasie, suggérai-je. » Cette seconde supposition me valut de me faire rabrouer encore plus violemment par le docteur. Il ne daigna pas me donner d'explication, mais tendit au malade une feuille de papier et un crayon. « Voyons un peu ce qu'il va en faire, » dit-il. Pour commencer, l'homme n'en fit rien. Puis, sortant en effet de sa léthargie, il se mit à écrire fiévreusement. Mais bientôt, avec la même soudaineté, il laissa tomber crayon et papier. Le docteur ramassa le tout et hocha la tête. « Rien de précis dans tout cela. Seulement, le chiffre 4, griffonné une douzaine de fois et d'une écriture de plus en plus saccadé en caractères géants. Je suppose qu'il veut écrire 14 Faraway Street. C'est un cas intéressant, très intéressant. Pouvez-vous le garder ici jusqu'à cet après-midi? Il faut que j'aille maintenant à l'hôpital, mais je reviendrai tantôt pour prendre toutes dispositions nécessaires à son sujet. C'est un phénomène trop curieux pour ne pas être suivi. Je l'avisai du départ de Poirot et de mon intention de l'accompagner à Southampton. Laissez-le ici, il ne lui arrivera rien. Il est sous le coup d'un épuisement total et il dormira probablement 8 heures d'affilée. Je vais en toucher un mot à cette brave Mrs. Pearson, votre propriétaire, pour qu'elle le surveille un peu. Le docteur Ridgeway partit avec sa célérité accoutumée. Poirot se hâta d'achever l'emballage de ses valises tout en surveillant la pendule d'un œil inquiet. « C'est incroyable ce que le temps passe vite. Eh bien, vous ne pouvez me reprocher de vous laisser désœuvrer, Hastings. Voici un problème sensationnel à résoudre. L'inconnu de la dernière heure. D'où vient-il? Qui est-il? « Sapristi, je donnerai 2 ans de mon existence pour que ce paquebot ne parte que demain au lieu d'aujourd'hui. C'est une affaire curieuse, mais il faut du temps, beaucoup de temps. Des journées, des mois peut-être s'écouleront avant que nous puissions apprendre la vérité sur cet inconnu et sur sa visite mystérieuse. Je ferai de mon mieux, Poirot, vous pouvez en être certain. Je m'efforcerai d'être un remplaçant émérite.
Oui, oui.
Sa réplique me parut manquer d'enthousiasme. Poirot m'aimait sincèrement, mais n'avait évidemment pas confiance en mes talents de détective. Je ramassai la feuille de papier et je dis en la froissant discrètement « Si je devais écrire une nouvelle, j'utiliserais comme point de départ votre dernière idiosyncrasie et je l'intitulerais « Le mystère des quatre ». À peine eus-je prononcé ces mots que notre malade sortit subitement de sa léthargie et se redressant prononça de façon claire et intelligible « Li Shang Yen ». Il avait l'air d'un homme réveillé en sursaut. Poirot me fit signe de ne rien dire. L'homme continua à parler d'une voix étonnamment nette, avec des intonations mécaniques comme s'il citait un texte appris par cœur. Li Shang Yen peut être considéré comme le cerveau du grand quatuor. Il en est la force motrice, le chef intellectuel, le directeur. C'est pourquoi je l'ai baptisé numéro 1. Le numéro 2 est rarement désigné par son véritable nom. On le représente par un S barré d'un double trait, le signe du dollar, ou bien par deux barres et une étoile. C'est donc de toute évidence un Américain qui personnifie la puissance de l'argent. Le numéro 3 est une femme et une Française. Cela ne fait pas de doute. Une vedette du petit monde, du demi-monde peut-être, une étoile du grand monde, qui sait, mais rien de précis à son sujet. Enfin, le numéro 4, sa voix hésita. Il s'arrêta. Poirot se pencha vers l'homme, les yeux rivés aux siens, l'incitant à poursuivre son récit. « Eh bien, le numéro 4 !» Une atmosphère écrasante soudain s'était apesantie sur nous. Le visage du malade était affreusement convulsé. Haletant, Poirot et moi, nous attendions. « C'est le destructeur !» exhala le pauvre homme dans un dernier effort. Puis, il s'évanouit. « Mon Dieu !» soupira Poirot. « J'avais donc raison. Pensez-vous que... » Il m'interrompit. « Transportez-le sur mon lit dans ma chambre. Je n'ai plus une minute à perdre. Si je veux arriver à temps pour mon train, ce n'est pas que je tienne à le prendre. Au contraire, je le manquerai volontiers. Mais j'ai donné ma parole. Vite, Hastings !» Abandonnant notre mystérieux visiteur aux soins de Mrs. Pearson, nous partîmes juste à temps pour attraper le train qui s'ébranlait. Poirot était tantôt silencieux, tantôt loquace. Par instants, perdu dans un rêve, il regardait fixement par la portière sans paraître entendre un mot de ce que je lui disais. Puis subitement, il s'animait, s'enfiévrait, me submergeait sous un flot de recommandations, d'injonctions, d'ordres donnés dans un style télégraphique. Après Woking, il y eut une période de calme. Le train, réglementairement, ne s'arrêtait pas avant Southampton, mais un signal soudain l'obligea à stopper. « Nom d'un tonnerre !» s'écria Poirot tout d'un coup. « Que j'ai été stupide ! Maintenant, je comprends. Ce sont nos anges gardiens qui arrêtent le train. Vite, Hastings, descendons !» En un clin d'œil, il avait ouvert la portière du compartiment et se trouvait sur le ballast. « Jetez les valises et sautez !» J'obéis juste à temps, car à peine étais-je descendu que le train repartait. « Et maintenant, Poirot, lui demandai-je, hors de moi, peut-être m'expliquerez-vous où vous voulez en venir ?»« C'est tout simplement que j'ai compris. » »« Voilà qui me renseigne. » « À vous voir, mon vieux Hastings, on ne le dirait pas. Portez les deux valises, c'est tout ce que je vous demande. Pour le reste, je me débrouillerai. »
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 2. Le gardien de l'asile d'aliénés. Heureusement, le train s'était arrêté à proximité d'une gare, près de laquelle se trouvait un garage où nous pûmes louer une voiture. Une demi-heure après, nous filions vers Londres. Alors seulement, Poirot daigna satisfaire ma curiosité. « Vous ne comprenez pas ? Eh bien, tout à l'heure, j'étais comme vous. Mais maintenant, je vois clair. On voulait se débarrasser de moi, tout simplement.
Quoi ?
Mais oui, on a voulu se débarrasser d'Hercule Poirot. Et on s'y est pris fort intelligemment. » Le procédé était d'une astuce remarquable. L'endroit où je devais me rendre avait été choisi plus que judicieusement. Il me craignait.
Mais qui ?
Vous le demandez ? Les quatre, voyons. Ces quatre génies ligués pour travailler hors la loi. Le Chinois, l'Américain, la Française et l'autre. Prions Dieu d'arriver à temps, Hastings. Vous croyez que votre visiteur inconnu est en danger ? Mais j'en suis convaincue !
Sans donner d'explication à Mrs. Pearson, stupéfaite de nous voir déjà revenus, nous lui demandâmes ce qui s'était passé pendant notre absence.
Rien d'inquiétant ? Personne ne s'était présenté et le malade n'avait pas bougé. C'est avec un soupir de soulagement que nous gagnâmes l'appartement. Poirot entra le premier dans la chambre à coucher. Sa voix retentit, étrangement émue.
« Hastings ! L'homme est mort !»
Je me précipitai vers lui. L'inconnu était étendu sur le lit comme nous l'avions quitté, mais il ne respirait plus. Je courus chercher un docteur autre que Ridgeway. Celui-ci, je le savais, ne serait pas rentré chez lui. J'en trouvai un presque immédiatement et qui voulut bien m'accompagner. Pauvre homme, il est mort, et bien mort. Il s'agit sans doute de quelqu'un à qui vous vous intéressiez.
Oui, en quelque sorte, répondit évasivement Poirot.
« De quoi pensez-vous qu'il soit mort, docteur ?»«
Difficile à dire. Une espèce de syncope. Cependant, il me semble qu'il y a des signes d'asphyxie. Avez-vous le gaz, ici ?»«
Non, l'électricité seulement. »«
Et puis, les deux fenêtres sont ouvertes. J'estime qu'il y a 2 heures qu'il est mort. »«
Déclarez son décès. »
Le docteur s'en alla et Poirot donna les quelques coups de fil nécessaires. À mon grand étonnement, il finit par téléphoner à notre vieil ami l'inspecteur Japp en le priant de passer nous voir. À peine Poirot avait-il fini que Mrs. Pearson arriva, ouvrant des yeux grands comme des soucoupes.
Il y a en bas un homme de la part de l'asile d'aliénés d'Anwell, puis-je le faire monter ?
Un individu, grand et fort, revêtu de l'uniforme réglementaire, se présenta.
« Bonjour, messieurs, dit-il d'un ton jovial. J'ai tout lieu de penser qu'un de mes oiseaux est chez vous. Il s'est envolé hier soir. »
« Il était ici, répondit Poirot calmement.
« Reparti de nouveau ?»
s'exclama le gardien.
« Mort !» lui répondit mon ami. L'homme parut rasséréné.
« Vraiment ?
Pauvre bougre ! Que voulez-vous ? Ça vaut mieux pour tout le monde.
Il était donc dangereux ?
Oh non, assez anodin au contraire, souffrant de la manie de la persécution. » Une folie aiguë, je vous dis. Il ne parlait que des sociétés secrètes chinoises. On a fini par le faire enfermer. Ils sont tous ainsi. Depuis combien de temps était-il enfermé ? Demanda Poirot. À peu près 2 ans. Ah, dit Poirot, sans se départir de son calme. Êtes-vous sûr qu'il n'était pas sain d'esprit ? Le surveillant se mit à rire. S'il l'avait été, pourquoi l'aurait-on enfermé ? Tous les fous se croient normaux, vous ne l'ignorez pas. Poirot ne dit plus rien. Il emmena le gardien voir le corps et l'identification fut vivement faite. C'est bien fini, dit le surveillant endurci. Drôle de pistolet, hein ? Maintenant, il faut que je parte et que je m'occupe des dispositions à prendre. Ce cadavre ne vous encombrera plus longtemps. Si l'on fait une enquête, vous devrez probablement déposer. Mais ce sera tout. Au revoir, messieurs. Avec une singulière grimace, il se retira. Quelques minutes après, Jap arrivait. L'inspecteur de Scotland Yard était comme toujours alerte et joyeux. « En quoi puis-je vous être utile, monsieur Poirot ? Je vous croyais parti pour les bancs de corail d'une île lointaine. » « Mon cher Jap, je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré l'homme que je vais vous faire voir. » Il le conduisit dans la chambre où l'inspecteur regarda le corps étendu sur le lit. « Voyons un peu, murmura-t-il intrigué. Il ne me semble pas inconnu et j'ai la prétention d'avoir bonne mémoire. Mais bien sûr, c'est Meyerling. Je veux être pendu si je me trompe. Et qui est, ou plutôt qui était Meyerling ? Un type de la police secrète. Pas de Scotland Yard. Il est parti en Russie il y a 5 ans et on n'en a plus entendu parler. Nous pensions que les bolcheviks l'avaient supprimé. Une preuve de plus, dit Poirot lorsque Jap se fut retiré. Et pourtant, la mort semble naturelle. Il eut un grognement de mécontentement et se tut. Un coup de vent agita les rideaux et l'attention de Poirot se dirigea soudain de ce côté-là. « Je suppose, Hastings, que vous avez ouvert les fenêtres après l'avoir déposé sur le lit. »« Non pas ? Si je ne me trompe, elles étaient fermées ?»« Comment ? Elles étaient fermées et maintenant elles sont ouvertes ? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je pense que quelqu'un est entré ici en notre absence. »« C'est assez possible, admit Poirot. » Mais il paraissait penser à autre chose. Après une minute de réflexion, il reprit. « Ce n'est pas précisément l'idée que j'avais. Une seule fenêtre ouverte ne m'intriguerait pas. Autant. Ce qui est curieux, c'est qu'elles le soient toutes les deux. » Puis, passant dans l'autre pièce, « La fenêtre du salon est ouverte également, s'écria-t-il. « Pourtant, nous l'avions fermée !» Il se dirigea de nouveau vers le cadavre et se pencha pour examiner soigneusement son visage, sa bouche, les commissures des lèvres. « Il a été bâillonné et empoisonné !» déclara Poirot en se relevant. « Grand Dieu ! M'écriai-je, épouvanté. L'autopsie va sûrement tout nous révéler !» Nous ne découvrirons rien du tout. Il a été empoisonné par une forte inhalation d'acide prussique. Le criminel lui a pressé le tampon sous le nez, puis il s'est sauvé après avoir ouvert toutes les fenêtres. L'acide cyanhydrique est extrêmement volatile, mais il dégage une odeur très prononcée d'amande amère. N'ayant aucune trace de cette odeur pour les guider, et ne nourrissant d'ailleurs aucun soupçon spécial, les médecins ne peuvent conclure qu'à une mort naturelle. Poirot se pencha de nouveau sur le cadavre.
Cet homme, Hastings, cet homme appartenait à la police secrète. Et il y a 5 ans, il s'est rendu en Russie. Puisqu'il a été hospitalisé ces 2 dernières années dans un asile d'aliénés, que s'est-il passé au cours de ces 3 années précédentes ? Demandai-je. Poirot secoua la tête et m'attrapa par le bras. « La pendule ! Hastings, regardez la pendule !» Comme lui, je dirigeai mon regard vers la cheminée. La pendule était arrêtée à 4 heures. Quelqu'un y a touché. Normalement, elle devrait marcher encore 3 jours. Je ne la remonte que tous les 8 jours. Dans quel but aurait-on fait cela ? Pour créer une fausse piste ou pour laisser supposer que le crime a eu lieu à 4 heures ? Mais non, mon cher, rassemblez vos esprits, faites un peu travailler votre cerveau. La matière grise, que diable ! Imaginez-vous que vous êtes Meyerling ? Vous entendez un bruit insolite et peut-être savez-vous que votre dernière heure approche. Vous ne disposez que d'un instant pour laisser un signe susceptible d'orienter les recherches après votre mort. 4 heures. Le chiffre 4. Le mystère du grand quatuor. Le numéro 4. Le destructeur. Avez-vous compris, Hastings ? Et Poirot, sous l'empire de son idée, courut dans la pièce mitoyenne pour donner un nouveau coup de téléphone. Allô ? L'asile d'aliénés de Handwell. J'apprends qu'un de vos malades s'est évadé aujourd'hui. Que dites-vous ? Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter ? Ah ! Parfaitement. Il raccrocha le récepteur et se tourna vers moi. Avez-vous entendu, Hastings ? Il n'y a pas eu d'évasion. Et ce gardien qui est venu ? Eh bien, ce gardien, n'était-il pas... Mais qui donc ? Le numéro 4 en personne, le destructeur. Complètement abasourdi, je regardais Poirot. Enfin, retrouvant l'usage de la parole, un fait certain, c'est que nous le reconnaîtrons n'importe où. Vous croyez, mon ami ? Je ne suis pas de votre avis. Il avait l'aspect d'un lourdeau, d'un hâbleur, avec son visage rubicond, sa grosse moustache et sa voix forte. À l'heure qu'il est, il n'a certainement plus aucune de ses caractéristiques. Quant aux autres signes distinctifs, ses yeux, ses oreilles, ses dents parfaitement alignées, ils sont insignifiants. L'identification n'est pas aussi facile que vous pouvez le croire. Mais la prochaine fois, je prendrai mes précautions. Vous pensez qu'il y aura une prochaine fois ? Poirot devint encore plus grave. C'est un duel à mort que nous livrons, mon cher ami. Vous et moi d'un côté, les 4 de l'autre. Ils ont gagné la première manche sans avoir réussi à m'évincer. À l'avenir, il leur faudra compter avec Hercule Poirot. Pour qui est habitué des rencontres entre Hercule Poirot et Hastings dans les livres d'Agatha Christie, ils savent déjà la solide amitié qui existait entre les deux hommes. Hastings, rentrant d'un long séjour en Argentine, voulait surprendre Hercule Poirot, resté à Londres, mais il ne savait pas que le grand détective était en partance justement pour l'Amérique du Sud, pour une enquête importante qui l'attendait là-bas. Il pensait à cette occasion aller de suite chez son ami. Mais dans ses premières pages du livre, la mort mystérieuse d'un homme dans l'appartement de Hercule Poirot change complètement la donne. Dans notre prochaine lecture, ils feront équipe pour chercher à découvrir ce que ces chiffres 4 écrits par le moribond sur ce papier peuvent bien cacher. 4 heures, le chef des 4, le grand quatuor, le numéro 4, le destructeur. Amis auditeurs, si vous voulez en savoir plus, émission Je lis pour vous sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB Plus, en direct ou en rediffusion, ou encore toujours disponible dans les podcasts de notre radio www.radioallianceplus.fr. À bientôt pour la suite.